D'abord, une première chose, après l'intervention de Salah Mejri, il m'a rappelé que finalement Saussure était un très très bon laïc, puisqu'il disait que la langue est forme et non substance. Si la langue est forme et non substance, ça veut dire qu'il n'y a pas d'absolu dans le langage, aucun absolu, et que finalement, les mots prennent sens obligatoirement dans des situations. Ce qui faisait dire du reste à Louis Porchet, dès qu'on ouvre la bouche et qu'on emploie un mot, on est dans la métaphore. Donc ça ne m'étonne pas qu'ayant pris 87 millions de mots en Tunisie, tu aies trouvé tant de définitions, tant de formulations aussi passionnantes les unes que les autres, du reste, mais qui montrent bien une chose, c'est que finalement, en Tunisie, il y a le même débat qu'en France, que la laïcité fait l'objet d'une quantité d'interprétations, selon les circonstances, selon les personnes avec qui on discute, la laïcité, évidemment, prend des sens différents. Alors là, j'ai pensé aussi, en écoutant tout ce qui s'est passé pendant ces deux journées passionnantes, j'ai pensé aussi au CID de Corneille, l'acte 4, scène 3, lorsque Rodrigue raconte son combat contre les morts à son roi, et à un moment donné, c'est Corneille, bien sûr, qui lui prête une phrase tout à fait remarquable, un oxymoron qui est resté dans les annales, cette obscure clarté qui tombe des étoiles. L'oxymoron, c'est l'opposition des deux mots, obscur et clarté, bien sûr. Mais moi, je pense que, après vous avoir entendu, on peut dire que pour la laïcité, c'est une obscure clarté, certainement. Alors là, ça ne fait pas un pli. Mais elle ne tombe pas des étoiles. C'est-à-dire que c'est une clarté qui, effectivement, nécessite le discours, nécessite l'échange, nécessite qu'on puisse en parler entre nous. Alors, j'avais préparé tout un topo, mais je crois que, après avoir entendu tout ce que j'ai entendu, je me dis que si je raconte ma petite histoire, moi qui ne suis pas un spécialiste de la laïcité, je vais avoir l'air de ne pas être très sérieux. Alors, je vais essayer de vous dire trois ou quatre choses. On n'a pas parlé du tout de la population du monde. Il faut pourtant le dire constamment, la population du monde est en accroissement continu, mais un accroissement qui est formidable. J'ai consulté, il y a quelques jours, en préparant mon petit topo, le bureau de recensement Karl Haub des États-Unis. Et c'est un bureau qui s'occupe de démographie planétaire. Par pure curiosité, j'ai recherché le chiffre de cette population humaine depuis l'apparition de l'homme sur la Terre. Alors je vous pose la question, une question à 100 francs. Combien y a-t-il eu d'êtres humains sur la Terre depuis Lucie, par exemple? 106 milliards d'individus sur la Terre depuis que l'être humain a fait son apparition. Je me suis dit, mais à l'heure actuelle, là, au moment où je regarde, quel est le nombre de terriens qui se trouvent actuellement sur la Terre? Et bien, je peux vous dire ceci, c'est que le vendredi 8 juin 2012, oui, c'est la semaine dernière, hein, à exactement 11h34 et 17 secondes, d'après le Karl Haub, hein, c'est pas moi qui le dis, le reliquat de cette population humaine s'élevait à 7 051 586 753 personnes. Vous allez dire que vous en foutez complètement, moi aussi. Mais ce chiffre est intéressant si je compare ce qui s'est passé entre ce moment-là, ce chiffre que je viens de vous donner, puis mon arrivée sur la Terre. Je dois dire que lorsque je suis arrivé sur la Terre, aucun de vous n'était là pour m'accueillir, parce que vous êtes tous plus jeunes que moi. Mais je peux vous dire que le 30 juillet 1935, c'était un mardi, à 4 heures du matin, bon, je suis un lève-tôt. La population de la Terre, j'ai découvert que les terriens à cette date, était de 2 milliards 200 millions. Cela veut dire qu'entre le moment où je suis né et le moment actuel, la population a augmenté de 4 milliards 800 millions. Alors quand vous parlez de laïcité, je crois que il faut quand même que vous preniez en considération ce chiffre-là. Parce que ce chiffre-là, il est en progression continue. Donc il y a un problème de démographie qui effectivement pose et est responsable de la situation migratoire que nous connaissons aujourd'hui. Et cette situation migratoire, effectivement, c'est elle qui pose tous les problèmes auxquels nous sommes confrontés pour des questions de laïcité. Bien sûr, il ne faut pas à cet égard penser qu'il suffise de condamner l'une quelconque des communautés en présence dans un pays donné pour parvenir à un état définitif de sérénité sociale. Les choses ne se passent pas comme ça dans la réalité. En général, les gens pensent par stéréotypes. Et les stéréotypes, comme vous le savez, ont la vie dure. Alors, les vérités du Nord vont se heurter aux vérités du Sud. Les groupes humains se structurent. Ils inventent leurs refus. Ils exaltent leurs différences. Ils solidifient leurs angoisses. Ils sanctifient leurs héros. Et peu à peu, des frontières nouvelles naissent, d'autant plus solides qu'elles sont invisibles ou masquées. Il existe en effet, c'est Chomsky qui l'a dit le premier, un discours de profondeur, une structure de profondeur, et puis une structure de surface. Et cette structure de profondeur ne peut pas être comparée à la structure de surface sans provoquer une sorte de désespoir, ou même pire, sans provoquer l'hilarité. Car entre ce que nous pensons en profondeur et ce que nous disons en surface, il y a une grosse différence. Non seulement donc, un groupe sépare les individus les uns des autres, donc c'est une séparation horizontale, si vous voulez, mais un autre gouffre écartèle chacun de nous, qui se trouve pris entre les sources lointaines et floues de son histoire personnelle, qui échappe à sa volonté, et que son moi va traduire comme il peut, de façon désordonnée et fluctuante au gré des circonstances, comme nous l'a montré fort justement Salamé Jerry. Et puis, son surmoi ne va pas se contenter de ça. Son surmoi, lui, va tenter de sublimer ce qu'il veut mettre à l'extérieur en lui proposant des modèles qui lui permettent à cet individu d'agiter des drapeaux et de crier très fort ses certitudes et son enthousiasme dans des manifestations pesant de tout leur poids grégaire de jubilation fabriquée. Et ça, ça vous rappelle quand même des événements qui ne sont pas si vieux que ça, n'est-ce pas, où nous avons vu des bannières, des drapeaux, des cris, des hurlements, etc. Alors, la laïcité n'est évidemment pas perçue de la même façon par tout le monde, même si certains pays ont une population relativement homogène. Il existe certainement, dans leur composition socio-ethnique, des groupes minoritaires pouvant être de cultures différentes. La laïcité se pose également pour eux, mais en des termes sans doute particuliers qu'il faut examiner dans leur spécificité. C'est ce qu'on nous a montré au cours de cette journée. Ce que je veux dire ici et souligner, c'est que la laïcité, contrairement à une espèce de slogan qui a apparu plusieurs fois dans la journée, je ne crois pas qu'elle soit une spécialité française. Même si la France peut avoir, à l'origine, joué un rôle plus particulier là-dedans, mais il faut savoir que c'est vrai que les Français en parlent beaucoup. Et que, comme dirait Robert Galisson, pardon, il disait que c'est un thème de prédilection à charge incentive. C'est-à-dire, pour les Français, la laïcité, ça fait vraiment partie de leur quotidien. Nulle part ailleurs, en effet, on en parle autant qu'en France. C'est un point qu'on est en droit de considérer comme positif, comme un indice de grande modernité, comme une preuve du mouvement de la pensée, devenant à la longue, capable de considérer qu'il faut mettre un terme à quelque chose qui peut être inadéquat à un besoin très fort dans la population française, qui est un besoin d'accommodation au changement inévitable du monde. Donc la laïcité, c'est quelque chose qui va progresser également dans la durée. Ça ne reste pas identique à soi-même tout au long. Donc, un vrai travail doit être entrepris pour modifier ce qui doit l'être, sans susciter ces sentiments de frustration, de déni, de stigmatisation ou de colonisation ancienne ou moderne, donnant une assise à des rapports de force en tout point détestables, bien sûr, dans la mesure où, s'ils ne sont pas apaisés, ils risquent à tout moment de déraper dans l'hostilité qui est l'antichambre du racisme, qui est l'antichambre de la xénophobie, de la haine, qui rend fou jusqu'à l'infamie, jusqu'au meurtre. Enfin, il suffit d'ouvrir nos journaux chaque matin pour s'apercevoir et compter les morts, quoi. Alors, je laisse tomber les trois aspects, croire, douter, ne pas croire, qui sont les aspects qui ont été rappelés plusieurs fois au cours de ces deux journées de la laïcité. Bon, je les laisse de côté pour parler de quelque chose qui peut-être n'a pas été assez dit. Je veux parler du mot culture, parce que finalement, la laïcité est en relation avec la culture. Le mot culture a donné lieu à des quantités d'explications, mais je voudrais en prendre une seule pour moi, en partant de l'étymologie du mot. Bon, cette étymologie, elle a d'ailleurs été rappelée hier, je crois, quand on a parlé de Cicéron et des Tusculanes de Cicéron. C'est là qu'effectivement, Cicéron a opposé agricultura à animicultura, c'est-à-dire la culture des sols, agricultura, et animicultura, la culture de l'esprit, la culture de l'âme, si vous voulez. Ce qui est important quand on regarde le mot culture, c'est que la culture est régulièrement en relation avec la nourriture. La culture, c'est ce qui nourrit. C'est ce qui nourrit le corps, déjà, avec les fruits, les légumes, etc. Mais c'est ce qui nourrit aussi l'esprit, avec la lecture, avec le débat, comme nous faisons en ce moment, avec l'écriture, etc. Mais c'est ce qui nourrit aussi l'âme, avec, par exemple, en honorant sa patrie, en honorant ses parents, et au-dessus de tout, par la prière, en honorant ses dieux. Dans la culture, il y a aussi l'étymon cultus. Et cultus, c'est l'adoration des dieux. Donc, vous voyez, la culture, c'est donc ce qui nourrit. C'est pour cette raison que la culture est considérée comme sacrée. Pourquoi ? Parce que sans culture, si on ne respecte pas la culture d'un individu, il va se sentir en quelque sorte abandonné, séparé de ce qui pour lui est essentiel, à savoir la nourriture de son corps et la nourriture de son âme. Et c'est pour cette raison, si vous voulez, que les problèmes concernant la laïcité se posent toujours avec beaucoup de force et de violence, parce que quand on entre dans le domaine de la culture, on entre dans le domaine mystérieux de la chose sacrée. La démocratie, elle est au cœur, finalement, de tous les principes qui gouvernent la laïcité. Sans doute, parce que je pense, peut-être à tort, que dans votre esprit, comme dans le mien, la démocratie aurait une présence obligatoire, donc presque axiomatique, donc notoire. En dépit du respect intellectuel que la démocratie inspire, sa réalité sociale est douteuse et même très suspecte à beaucoup qui voient en elle un obstacle à une certaine forme de réalisme opérationnel. La majorité pour eux ne serait donc pas un critère décisif de pertinence et mériterait donc éventuellement d'être corrigée. Mais voilà, sans démocratie, il n'y a pas de laïcité, et la réciproque est vraie, sans laïcité, il n'y a pas de démocratie. Ce n'est pas vrai seulement pour les pays voisins du Sud et pour les pays totalitaires. La France elle-même n'est pas à l'abri dans ce domaine de tout reproche. La démocratie et la laïcité supposent le dialogue. Qu'il s'agisse de coordonner les flux migratoires, de gérer les revendications des minorités, en se montrant très clair, dès le début, sur ce qui est acceptable ou ce qui n'est pas acceptable en territoire républicain, d'engager le dialogue des cultures et des religions sans sombrer dans un unanimisme béat sur des pratiques immanentes, dites nécessaires et inoffensives, mais dont la mise en application naïve déboucherait sur des conflits accroissant indûment le fossé discriminatoire séparant les communautés. Tout cela montre bien la nécessité que nous avons illustrée par ce colloque, n'est-ce pas, de donner à la laïcité, même si c'est un concept qui est extrêmement difficile à définir, toute sa place réflexive dans l'enseignement à tous les niveaux de l'école républicaine. La laïcité, donc, on doit l'apprendre, on doit la comprendre, on doit s'en imprégner et on doit la cultiver tout au long de sa vie. Je crois que c'est peut-être là la leçon fondamentale qu'il faut retirer de ce colloque qui, à mon avis, a été d'une très grande richesse. Et pour cela, je remercie tous les intervenants, car c'est vous qui avez donné à ce colloque sa valeur. Je vous remercie à tous d'avoir accepté de participer à ce colloque. Je vous remercie d'avoir été là et de nous avoir écoutés pendant ces deux journées. Et espérons que nous allons maintenant, grâce à ce colloque, faire un petit pas, non pas dans l'hominisation, c'est-à-dire le passage du primate à l'homme actuel, mais plutôt dans l'humanisation, c'est-à-dire dans le passage de l'être, un processus, si vous voulez, qui est toujours inachevé, mais qui peut certainement amener ce que nous sommes, c'est-à-dire des terriens, à devenir un peu plus acceptables que ce que nous étions jusque-là. Merci beaucoup.